vraiment c'est quelque chose de très très frais. Je viens de finir de voir. On va essayer quand même de retranscrire un petit coup. Mais ouais, bon, de toute façon, ça c'est. Il y a quelque chose de frappant dans toutes les parachutes qu'on voit en ce moment. Ré-e, Shoftim, qui t'étsé, qui t'avo, puis la semaine prochaine encore, Nitzavim, Vayelech. On dirait que, même qu'à travers ces titres de parachutes, la Torah nous propose un véritable programme. Regardez, Shoftim, mettre en place quelque chose, quitter de ses. Allez, il faut sortir d'un état, quitte à vous, rentrer dans un autre, Nitzavim, voilà, c'est bon, là maintenant, allez, on y va, Tem Nitzavim, Ayom, Vayelech, Haazinu, Vezot Abracha. Rien que les noms sont extraordinaires. Le Admor HaZaken le disait de façon très générale, pas seulement par rapport à Elul, Yamim Noraim, etc. L'Admor HaZaken le disait, c'est qu'un juif doit vivre avec son temps. Comme il dit. C'est-à-dire, les chiyot imazman, de vivre avec le temps. Alors pour lui, vivre avec le temps, c'était pas être à l'alerte, voilà, de BFM, à notre site d'actualité. Vivre avec son temps, c'était vivre avec la montée de la paracha de la semaine. Le matin, sa journée, elle va correspondre à la Aliya. Aujourd'hui, c'est dimanche, c'est le Rishon de paracha de Kitavo. Aujourd'hui, on est mardi. On va vivre avec le Shlishi de la paracha de Kitavo. C'est ce qu'on va voir. On va essayer de voir ensemble le Shlishi de la paracha de Kitavo, qui est d'ailleurs la montée la plus courte et qui précède. On va dire la grosse partie, celle qui prend énormément de place de la paracha, à savoir les brachot, les fameuses brachot, les fameuses klalot de la paracha de Kitavo. Mais avant d'en arriver au Shlishi, essayons juste de survoler quand même quelques endroits du début de la paracha. Le Rishon de la paracha de Kitavo traite principalement et uniquement de la mitzvah qui s'appelle la mitzvah de Bikurim. Dans le Shemini, on parle de la mitzvah de Biur à Maasot. Et après on verra le Shlishi. Dans ce Rishon qui parle de la paracha de Kitavo, qui parle de Bikurim, d'ailleurs il y a un midrash très connu de tous, qui dit Bereshit, Bara Elokim, Tashamayim et Taaretz, Bereshit, Bishvil Reshit. Pour quelque chose qui s'appelle Reshit. Alors, après, qu'est-ce qui s'appelle Reshit? Il y a pas mal d'enseignements pour Israël qui s'appelle Reshit. Et le deuxième, c'est celui qui vient en deuxième plan, c'est pour les Bikurim qui s'appelle Reshit. Comme c'est marqué ici. Vaya gitavo el haaretz asher Hashem lokecha noten lechan chala virishta v'yashav taba velakarta mereshit kol peri ha'adama. Il faut prendre ce que la Torah appelle Reshit Peri Ha'adama. Asher Tavi Me'artzecha, Asher Hashem Elokecha Noten La, Vesamta Batene, etc. Va'alarta El Hamakom, fallait se rendre à cet endroit-là. Ben, il faut comprendre, c'est pas un peu exagéré. Bon. Oui, chaque mitzvah, les chachamim ont leur façon. On aurait envie de dire un peu commercial, de vendre la mitzvah et donc de la mettre en valeur. Ah, ils ont trouvé Réchid, voilà, en Béréchid, voilà. C'est quand même énorme de dire que le monde a été créé pour cette mitzvah. Béréchid, Bara Elohim, pour la mitzvah de Bikurim. Akadosh Baruch Hu a créé Tashamayim et Taaretz. Oui, on va essayer un petit peu de toucher à ça, de comprendre la portée de cette mitzvah. On parlait justement en amont de ce devoir que l'on a de vivre avec le temps, donc il est clair que si. Pas seulement le nom de la paracha Kitavo, mais le sujet aussi. On dirait qu'il fait partie des éléments qui doivent être travaillés, approfondis, compris avant Rosh Hashanah. C'est marqué là-bas juste après, dans le pasuk Gimel. Uvata el Kohen. Asher yiyeh bayamim ahem. Donc tu iras chez le Kohen qui se trouvera à ton époque, à cette époque. Ve'amarta elav. Ve'amarta elav. Higadti hayom l'Hashem elokecha. Ce sont des mots très très riches. On va essayer de comprendre hein, que le mot higadti hayom est un mot sur lequel on reviendra peut-être à la fin. Mais la Torah dit comme ça. Tu vas aller chez le Kohen. Alors, bon, le principal, c'est les gestes. Tu vas lui donner. Ve'amarta elav. La Torah nous ordonne de lui dire. Et Rashi, donc, sur un mot, on va dire, sur lequel, on a, a priori, on n'aurait pas eu trop de questions. Enfin, bon, d'accord, on va lui dire. On va lui dire ce qu'il y a marqué ici. Ve'amarta elav, il dit Rashi, sur place. She'encha kafui tova. Pourquoi tu vas lui dire Rashi, sans le besoin de justifier cet ordre-là, ve'amarta elav, she'encha kafui tova. Tu n'es pas kafui tova, tu n'es pas ingrat. She'encha kafui tova. Qu'est-ce que Rashi veut à travers ça? Qu'est-ce qu'il veut dire? Chaque fois qu'on va voir dans la Torah, ve'amarta elav, on va dire she'encha kafui tova. Higad ti ayom pa'am achad bashana velo shtei pa'amim. Tov, on va aller chez le Kohen, on va ramener donc son fameux, le fameux panier. Le panier est pris par le Kohen, il le pose devant le Mizbeach. Et là commence la fameuse mitzvah qui devait se dire à voix haute obligatoirement, comme dans le Pasuké. Ve'anita, ve'amarta, Rashidi, ve'anita, lashon haramat kol. C'est pas seulement répondre de quelque chose, mais c'est élever la voix. Haramat kol. Harami, ovedavi, et là, on reprend toute l'histoire. Et voilà, la vanne, on est descendu en Égypte, et on était un tout petit peu, on est devenu très rapidement très nombreux, on nous a fait du mal, on nous a fait souffrir, on a crié à Hachem, tu nous as écouté. On reprend toute notre histoire. C'est d'ailleurs troublant que dans la Haggadah de Pessah, donc le soir, on va mettre en relief, en valeur, l'événement de la sortie d'Égypte. Et Dieu sait combien d'endroits dans la Torah, combien de passages, combien de sujets vont se lier. C'est comme on dirait il y a des fleuves, la mer c'est Yetziat Mitzrayim. Et combien de mitzvot à côté vont se lier, vont se déverser dans la mer de Yetziat Mitzrayim. Et c'est bizarre que de tous les textes, de toutes ces mitzvot dans lesquelles on invoque la sortie d'Égypte, le Baal Haggadah a choisi celui-là. C'est celui des Bikurim. C'est la paracha qu'on lisait dans les Bikurim. Tov, pour plus de précision par rapport à la mitzvah de Bikurim, il y a dans le Seder Zraim, il y a à la fin la dernière Masechet, c'est Masechet Bikurim. Et là-bas, dans le troisième chapitre, c'est là où les Chachamim décrivent un petit peu le tekes, ce qu'on appelle la cérémonie. Voilà comment ça se passait concrètement. Et bien, ça avait des retombées gigantesques. Et ça, c'était quelque chose qui prenait énormément de... En fait, dans le courant de l'année, au Beth Amikdash, il y avait plusieurs cérémonies. Par exemple, prenons une grande cérémonie, quelque chose de vraiment de grandiose, c'était le Korban Pessah. Et trois services, c'était rempli, les Kohanim avec du sang jusqu'aux genoux, on mangeait à l'intérieur de la ville. Bon, c'était grand, mais c'était un jour précis. On fait la shrita à l'après-midi, manger le soir, après c'est fini. C'est vraiment une grande soirée, on a organisé, on a pris le top, on a fait quelque chose d'unique. Bon, la soirée elle est finie, tout le monde est en train de dire, c'est fini, c'est plus rien. Le Bikurim, c'était pas comme ça. Le Bikurim, c'était vraiment quelque chose qui allait avoir des retombées, des conséquences un petit peu sur tout le peuple. Comment c'est... Depuis le moment où l'agriculteur, et Dieu sait que tout le monde est agriculteur, on ne parle pas l'agriculteur dans le sens que le producteur, le fournisseur, c'est-à-dire celui qui est dans son jardin, il avait un olivier, un figuier, un fruit des sept fruits d'Eretz Israël, était concerné par la mise à du Bikurim. Donc par rapport à ça, 95% de la population d'Israël était concernée par la mitzvah de Bikurim. Et les Bikurim, c'était pas un jour, c'était toute une période. On va voir ici, la Mishnah nous dit, c'était depuis Atzeret, depuis Shavuot, jusqu'à Sukkot, voire même après Sukkot, parce que pour les oliviers, on amenait après Sukkot. Et donc depuis le moment, donc c'était une mitzvah qui se prolongeait dans le temps. et à laquelle on faisait attention, et ce fil rouge, on mettait sur le premier fruit, et après on regardait précieusement dans ce panier devait être porté sur les épaules, c'est même le très grand producteur de fruits et légumes quand il avait ses bikouri, il n'avait pas le droit de le faire porter par un de ses sbires, par un employé, il devait le porter sur ses épaules à lui. La description cérémoniale que la Masechet Bikurim fait dans le troisième chapitre est fondamentale et très importante. Et c'est là qu'on réalise que c'était peut-être la cérémonie peut-être la plus importante. Et on arrivait, comment, par exemple, quand on amenait un corban, on vient d'arriver avec nos regrets, c'est le Kohen qui fait principalement tout ce qu'il faut. Non, là, le Kohen prenait, il posait, après le type, il devait lire à haute voix, Daramatol, Anitava, Martin. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'allongeait sur le temps et qui a été mis en valeur de façon extraordinaire. Et ça correspond tout à fait à cet enseignement qu'on a mentionné précédemment, que pour le Réchit, pour le Bikurim, le monde a été créé. Regardez comment c'est marqué. Asganim va Gizbarim Yotzim Likratam, les adjoints. Les trésoriers du Beth Amikdash sortaient à la rencontre de ceux qui amenaient les bikurim. Il y a un détail frappant dans toute la cérémonie. Vechol ba'ale umanuyot, et tous les artisans chez Yerushalayim omdim lifnehem. C'est lorsque le type arrivait avec son panier sur les épaules et qui traversait Jérusalem. Tous les artisans, le cordonnier, le boucher, tous les artisans devaient s'arrêter de travailler et se tenaient devant eux, ils allaient leur faire kavod, Veshoalim Bishlomam. Et ils disaient, Achenu Anche Makamploni, nos frères, habitants de Césarée, habitants de Natania, Batem les Shalom. Ce qui est intéressant, comme le Barthénora le dit là-bas, les artisans se levaient, regardez, voilà. Barthénora, il dit comme ça. Omdim bipnehem, donc les artisans se levaient devant ceux qui amenaient les bikurim, afalgav, de en ba'ale umanuyot, chayavim la'amod, mipne talmide chachamim. Alors que si le gadol adore, je ne sais pas, j'exagère un peu, mais bon, l'av bedin de telle ville, ou des rabbanim de très, très grande envergure, passaient devant la devanture de leur magasin, au moment où ils travaillaient, en chayavim. Ils n'avaient pas l'obligation de se lever. Devant l'agriculteur qui est en train de ramener ses figues et ses grenades, Chayavim la mode. Pourquoi devant les talmidei chachamim, il ne fallait pas s'arrêter de travailler. On regarde d'abord la légalité. Tu es en train de bosser, tu as un patron, il te paye à l'heure, tu ne peux pas t'arrêter. Ah, mais pour les bikurim, ça, il fallait se lever. On va essayer de comprendre tout ça. Mikol makom ayu chayavim la'amod mipnei mevi'e bikurim de chaviva mitzvah b'sha'ata. Et alors, talmidei chachamim, c'est pas chaviv. Extraordinaire. Donc ça, en gros, c'est un peu, voilà, c'est la mitzvah des bikurim. Ensuite, et pour finir, comment la Torah conclut la mitzvah des bikurim dans le Pasuk Yud Aleph, elle finit en disant Vesa Marta Bechol Atov Asher Natan Lecha Hashem Elokecha Ugvetecha Ata Vea Levi Vea Ger Asher Bikirdecha Vesa Marta Bechol Atov. Et donc là, c'est alors, en fait, après que tu as tout fait, tu as posé, tu as dit, tu t'es prosterné devant Hashem. C'est un ordre. Tu te réjouiras. Et comment on se réjouit? Parce qu'on a partagé avec le Lévi, avec le Guer qu'il y a au sein de toi. Samarta Becholatov.
L'abab et l'orphelin.
Hein?
Avec l'orphelin et l'abab.
Ouais. Ensuite, le deuxième sujet abordé par la Torah après les Bikurim, donc on a dit c'est le Biur Amasrot. Qui on sait se faisait à deux reprises tous les cycles de 7 ans, la troisième année et la septième année. Il fallait pas garder s'il y avait des maasrot qui restaient à la maison, qu'on aurait dû manger à Jérusalem et qu'on n'a pas pu manger, il fallait s'en débarrasser, il fallait pas amasser ces choses-là. Et là, Va'amar talifna Hashem Elokecha biyartia kodesh mina bayit. Là aussi, il fallait dire devant Hashem, les gammes d'étatibi, mais nous la Lévi, Akadosh Baruch Hu, voilà, j'ai fait ce que je devais, j'ai donné à qui de droit, je me suis débarrassé de ce qui restait à la maison, la guerre, la yatom, l'almana, à la veuve, à l'orphelin. Kechol mitzvatecha asher tzivitani. J'ai fait exactement comme tu m'as ordonné. Lo avarti mi mitzvotecha velo shachachti. Et là, carrément, ça prenait une dimension encore plus élevée. Donc, comme il disait à la fin, velo natati menu lemet, shamati bekol Hashem elokai. Donc j'ai été attentif à la volonté d'Hachem, à la voix d'Hachem, à Siti Kechol Asher Tzivitani, j'ai fait comme tout ce que tu m'as ordonné. À Siti Kechol Asher Tzivitani. Pourquoi tu t'envoles? C'est une mitzvah parmi les 613 mitzvot. À Siti Kechol Asher Tzivitani. Et Rashi dit, c'est quoi à Siti Kechol Asher Tzivitani? Ça veut dire quoi? J'ai fait toute la volonté d'Hachem. J'ai fait tous ses ordres. Rashi dit, Samarti Vesimartibo. C'était quoi la volonté de toutes les mitzvot en fin de compte? C'était de me réjouir et de réjouir les autres avec. C'est un Rashi magnifique. C'est ça, tout le tzivouï d'Hachem qu'un être humain aurait tendance à prendre comme étant quelque chose de lourd, de difficile à réaliser. Rashi l'a résumé en trois mots. Samarti vesimarti. Voilà. C'est ça, sa kavana, c'était de se réjouir et de réjouir les autres. Donc c'est pour ça. Ashkifa mi meon kom shecha, Kadosh Bonchou, regarde ta demeure sainte, minashamaim du ciel ou varech et amecha et Israël. Et puisque donc je me suis réjoui et j'ai réjoui les autres, alors bénis tout le peuple d'Israël, veta adama, et bénis la terre d'Israël, ashanatata lanu, kashanishbat alavoteno, et rezavat alavotrach. Et là on finit le génie. Maintenant on arrive, comme on a dit, vivre avec son temps, c'est le shlishi d'aujourd'hui. Et comment le shlishi commence? Le shlishi, donc c'est la plus petite montée, donc pasuk 16 au pasuk 19, 3 psukim, 4 psukim, voilà, 4 psukim. Et regardez ces 4 psukim là. Alors, donc on a dit, voilà, on a parlé à peu près, voilà, on a survolé la mitzvah Bikurim, survolé la mitzvah du Biur à Kodesh, Biur Maasrot, et là, la Torah dit la chose suivante. Hayom Hazé. Et là, on va voir, effectivement, que le mot Hayom Hazé, va revenir énormément dans tout le reste. En fait, c'est quoi Hayom Hazé? C'est quel jour? C'est quoi ce jour-là? Dans le Pshat, c'est la mort de Moshe Rabbeinu. Hayom Hazé, ni est allé à Mahom, on va voir Atem Nitzavim, Hayom. Il y a encore énormément de Hayom qui arrivent après, qui rejoint, comme la Gemara dit, Atem Nisavim Hayom Hayom, le jour de la Hayom Aratolam, c'est Rosh Hashanah. Hayom Hazé, Hashem Elokecha Metzavecha La'asot, Et Achukim Ha'elev Et Amishpatim. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Hayom Hazé. Hayom Hazé. C'est bizarre. C'est bizarre de commencer ce qu'on va dire par dire Hayom Hazé. A priori, aujourd'hui Hashem t'ordonne de faire toutes les règles et toutes les lois, et tu les feras de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est bon. Et puis Matan Torah. Alors Sinaï déjà. Mazé Hayom Hazé aujourd'hui. Omer Hashi Hayom Hazé Hashem Elokecha Metzavecha. Bechol Yom Yiyu Be'enecha Chadashim. Chaque jour, les mitzvot seront nouvelles à tes yeux. J'entendais hier le Rav Moshe Shapira Zichrono Tzadik Livracha qui ramenait que la paracha qu'on lit à Tisha B'Av, la paracha de Vaitranan, qui tolide Banim, ou Banim, etc., et qui parle de toutes les catastrophes, là-bas c'est marqué ça commence par Venoshan Tem Baaretz, Venoshan Tem, Milashon Yashan. Si vous allez devenir des vieux habitants, vous allez vous. C'est pas Milashon Yoshen, aussi, t'as raison aussi. C'est exactement la même chose. Quelque chose, Yashan, quelque chose qui est vieux, c'est comme Yoshen, c'est quelque chose qui dort. Donc, c'est le contraire, il dit le contraire de la chayout, le contraire de la vivacité, le contraire du sérieux. Il dit on lit cette paracha d'Afka à Tisha B'Av, parce que toutes les catastrophes arrivent parce qu'on fait des mitzvot à Hergel. Et il justifie cette expression de Hergel. C'est qu'à la base, la mitzvah, tu l'as compris avec ta tête, avec la partie la plus noble de ton être. Mais que cette mitzvah est devenue tellement insignifiante que tu pourrais la faire avec le pied aujourd'hui. C'est un mitzvah Hergel, mitzvah Regel. Et là, la Torah nous dit « Hayom azeh, Hashem alokecha metzavecha » Dit Rashi, c'est quoi Hayom azeh bechol yom yu be'enecha chadashim. Ces mitzvot que je t'ordonne doivent être nouvelles chaque jour à tes yeux. Ke'ilu bo be'yom nitztavita aleihem. Comme si aujourd'hui tu avais été ordonné sur elles. Ça c'est Hayom azeh. Donc pour essayer d'expliquer Hayom azeh. Nous, c'est quoi ce Hayom azeh? En fait, Rashi répond en deux temps. Le deuxième temps arrive tout de suite. Veshamarta ve'asita otam, dit Rashi. Alors, avant de lire ce que Rashi dit, en fait, Rashi, lui, c'est un pashtan, d'accord? Lui, il vient expliquer le pshat des mots. Le pshat des mots, c'est-à-dire qu'il y a des mots dans la Torah qui sont indéniablement des ordres. Non, on verra quand même, on t'engage à faire quelque chose. Zachor et Asher Asar, Zachor et Yom HaShabbat. Shamor et Yom HaShabbat. Kabed et Avichav et Yom HaShabbat. C'est des ordres, indéniablement. Il y a des fois des termes dans lesquels on discute est-ce que c'est un ordre ou est-ce que la Torah te souhaite quelque chose ou est-ce que la Torah te parle. Ah, donc il arrivera ça. Par exemple, là-bas, la Torah parle des shalosh regalim, tu iras voir Hachem et tu viendras pas les mains vides et tu amèneras les corbanotes, etc. Après, là-bas, c'est marqué Ve'ayita Arsameach. Là-bas, les farchim sont damnés. Ve'ayita Arsameach. C'est quoi? C'est une mitzvah, la Torah m'enjoint à être joyeux. Non, si tu fais les choses comme je te dis, alors tu connaîtras le sentiment intense de la simcha. Ve'ayita Arsameach. Voilà, là-bas, a priori, c'est une conséquence, si tu fais les choses comme ça, alors Ve'ayita Arsameach. Par exemple, on va voir aussi dans les parachutes qui arrivent. Im yiyé nidachacha bikse hashamayim. Alors, quand tu vas être éparpillé à l'extrémité du ciel, là-bas c'est marqué Veshavta ad Hashem Elokecha. Là-bas, les mefarshim, ils sont en discussion. Est-ce que la Torah est en train de prévoir ce qui va arriver? Oui, à la fin des temps, tu seras éparpillé sur toute la planète et tu reviendras vers Hachem. Ou bien non. C'est un ordre que la Torah te dit. Veshavta ad Hashem Elokecha. Ici, voilà ce que Rashi veut dire. Ici, c'est marqué, a priori, nous, comment on aurait compris? Si on avait à expliquer ce pasouk à un enfant. Veshamarta ve'asita. Qu'est-ce qu'on va lui dire? C'est un ordre. Il dit Rashi, non. C'est quoi Veshamarta ve'asira? Tu garderas, tu feras. Omer Rashi, bat kol mevarachto. Contrairement à ce que tu aurais pu croire, c'est pas un ordre que la Torah ici te donne, mais elle t'annonce, c'est une annonce qu'elle fait. Elle annonce quoi? Avaad bikurim hayom. Eveta bikurim hayom. Donc cette voix céleste le bénit en lui disant Eveta bikurim hayom, puisque tu as amené le bikurim hayom, tishne le shana haba. Ça renforce encore le lien de Rosh Hashanah, de la mitzvah de Bikurim de Rosh Hashanah, de vivre avec son temps.
De quoi Tishne?
Tishne, Milashon Vishinantam, tu. Ah, il y a un mot en français, c'est bis. Tu redoubleras, c'est pas. Ouais, c'est répété.
Le sroud de Rosh Hashanah.
Hein? Tu récidiveras, magnifique, exactement. Tu récidiveras. Tishne les Shanaba, tu récidiveras l'année d'après. Donc, comme ça, Rachid, t'invite à comprendre le passage. C'est Hayom Azesik, si tu amènes les Bikurim, comme on a dit, Kechol Asher Tzivitani, avec la Simcha qu'il faut, parce que la mitzvah, elle est nouvelle à tes yeux. Alors, Veshamar t'avais Asita Otam, il dit Rachid, Tishne les Shanaba, alors tu récidiveras l'année d'après. Ce qui est frappant dans ce Rachid, c'est qu'a priori, bon, ce passage traite, comme c'est d'ailleurs. On va dire le cas dans énormément de parachutes dans la Torah, qu'on a vu, qu'on verra, d'un sujet très global, très général. Faire les mitzvot avec un nouveau regard, avec un entrain neuf, quelque chose de la rentrée. Et si tu fais les et la Torah t'invite à faire, à maintenir cet état le plus longtemps possible. Donc c'est très général en fait. Et on a l'impression que Rashi nous ramène sur terre un petit peu en nous disant non, attends. On parle des Bikurim ici. Alors qu'on a parlé des Bikurim avant, on a dit tout ce qu'on a dit, Vissamarta, Bechol, Atov, etc. On a parlé de la mitzvah de Biur Masrot. Alors qu'on aurait pu très bien dire peut-être que ça se rapporte à ce qui va se passer après, le pacte des Brachot, des Klalot, vous allez traverser le Yarden, etc. C'est des psukim très très généraux. Donc, et Rashi tient absolument à ramener ça au Bikurim. C'est-à-dire, d'où Rashi sait ça? On va voir sa source après. Donc, Eveta Bikurim Ayom, Tishne Leshana Abba. Il y aura comme un ange qui va dire, ah voilà, tu as amené cette année, ah Bezrat Hashem, l'année prochaine tu pourras encore amener ça. On continue dans les psukim, et là on a des psukim d'une valeur inestimable qui arrive. Pasuk Yud-Zayin, Et Hashem He'emar Tahayom. C'est très difficile à traduire. Dans les Chumashim, ils traduisent, j'ai vu, par distinguer. Et Hashem He'emar Tahayom. Encore, on revient avec Ayom. Liot lecha l'Elokim, velalechet bidrachav, velishmo chuka vo mizvata vo mishpata, velishmo bekolo. Donc ça c'est toi vis-à-vis de lui. Et pasuk yutret, réciprocité. Puisque toi tu fais comme ça vis-à-vis de lui, alors va Hashem emircha ayom. Et Hashem aussi, il est emirotra. Ayom, aussi ayom. Il a la même relation, une relation nouvelle tous les jours, renouvelée. Que tu le sois donc son peuple particulier, le peuple qu'il a choisi. Kacher dit Béalar, comme il te l'a dit, contrairement à ce que d'autres voudraient prétendre, Kadosh Baruch Hu a changé. Non, Kadosh Baruch Hu ici s'engage, c'est toi le Am Segula. Velishmor kol mitzvotav. Et donc tu as été désigné pour garder toutes ces mitzvot. Et on finit par le pasuk yutet, Utitecha Elion al kol ogim. Donc, cet échange, puisque toi tu as été He'emir Hashem et Hashem a été He'emir toi, alors la conséquence de ça, Titecha Elion al kol agoyim, il va te placer au-dessus de toutes les nations, Asherasa, Lidhila, Leshem, Letif Eret, Veliotra Am Kadosh, Lashem Elokecha, Kasher Diber. Extraordinaire, des psukim, d'accord, d'une force phénoménale. Rashi, Yudzayin. Rashi, directement, il va pas faire durer le suspense, il dit, regarde, on a deux psukim dans lesquels on a un mot qu'on a du mal à traduire. He'emarta, he'emir, he'emircha. Rashi met les deux en même temps. He'emarta, he'emircha. Et donc, bien entendu, avant de poser la moindre question, ça serait de le définir, de donner la définition de ces mots-là. Omer Rashi, déjà d'emblée, en lahem ed mochiach bamikra. En fait, le meilleur dictionnaire de la Torah, c'est la Torah. Pour connaître la définition d'un mot, il y a obligatoirement un contexte, et généralement le premier, dans lequel on a la définition profonde d'un terme. Et là, Rashi, pourtant, nous, on n'aurait pas cru, ça va. Alors, si on travaille avec le Shoresh, on a fait un peu d'Ulpan, etc., bon, on s'en sort. Et Rashi dit d'abord d'emblée que ça lui a posé problème. En lahem et bamikra. Rashi connaît tout le Tanakh. Et il dit, j'ai pas trouvé de référence, j'ai pas trouvé de parallèle dans un autre contexte pour te donner voilà la définition précise de ce terme. J'ai pas trouvé. En lahem et bamikra. Velinire, alors quoi, on fait rien, pourtant c'est fondamental ce qui est marqué ici. Velinire, alors bon, que je vais te donner quand même mon avis. Sheu lashon afrasha ve'avdala. C'est un langage de séparation, de distinction. Et qui donnerait donc à dire, Rashi reprend avec la définition qu'il te propose, sans en être sûr que ça l'est, on va dire, à 100%. Tu l'as choisi, tu l'as distingué, tu l'as séparé du lot de tous les autres idéaux des nations pour qu'il soit ton référent, ton Elohim. Et donc lui aussi a fait de toi un être à part par rapport à, tout, à tous les autres habitants de la terre. Liotlo le Amsegula, pour devenir son Amsegula. Alors après, en fait, il n'y a pas de parenthèse, mais quand vous voyez dans les livres un peu plus pointilleux, un peu plus précis, ce qui apparaît après, c'est entre parenthèses, c'est pas Rashi qui le dit. Il dit, c'est le Even Ezra, parce qu'il dit, Umatsati lahem ed. En fait, j'ai trouvé un parallèle, mais c'est pas lui. Lui, il a dit, il l'a pas trouvé. Donc c'est d'autres que Rashi. Comment c'est rentré dans Rashi, je sais pas. Umatsati lahem ed veu lashon tif eret. Un langage de majestuosité, on va dire. Comment tu dis Tiferet ? Hein ?
Gloire.
De gloire, ouais. Kemo, et là, c'est un passou qu'on connaît tous, on lit toutes les semaines. Itameru kolpo ale aven. J'ai du mal avec ça, parce que Itameru kolpo ale aven, po ale aven, c'est quoi ? C'est les gens qui pratiquent l'iniquité, les gens qui font des fautes. Itameru, c'est Tiferet. Au contraire, ce que Rashi a dit, ils sont séparés. Kol po ale aven. Ils vont se distinguer des autres. Mais Bémet, ce pirouche là aussi, il est très intéressant. Parce que, par exemple, j'ai noté quelques références à ça. Par exemple, c'est marqué là-bas, dans les brachot, il me semble que Yaakov donne à ses enfants, il a dit « Anoten imrechafer ». Et quand j'ai regardé tout à l'heure dans le dictionnaire, Amir, avec un Aleph, pas Amir, avec un Amir avec un Aleph, hein ?
Comme le chanteur ou pas ?
Non, Amir, c'est un sommet.
C'est
en fait, c'est le sommet des arbres.
D'accord,
la cime. Imre Levanon, je crois que c'est marqué.
Hein ?
La cime, Chazak ou Baruch. La cime des arbres. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que même là, juste en dessous, dans le dictionnaire, il dit, et en connotation de langage arabe, émir. Un émir. Un émir, c'est un prince, c'est un roi, c'est quelqu'un qui est au-dessus des autres. Celui qui est au-dessus. Et ça va très bien avec le lachon tif eret, le lachon émir. Par exemple, on trouve aussi dans les corbanotes. Dans les corbanotes, Ekter, Chalavim, Ve'emurim, dans le Rachot, par exemple. On parle des Chalavim, le Chelev, c'est le gras, mais dans le sens le meilleur. Ve'emurim. C'est marqué là-bas que les Emurim, c'est la partie principale du corban. C'est quand on allait brûler les Emurim que là, le corban, il était vraiment entièrement reçu. Les Imurim, donc ça rejoint le émir, c'est vraiment le langage de émir. Et bien, dans tous les langages, il y a plein de façons que la Torah a de décrire le fait de verbaliser quelque chose. Les Daber, on a vu tout à l'heure, Igad et Tiayom. Bien entendu que chaque façon de faire référence à la verbalisation, elle a sa particularité. On dirait que le Amar, ben, par exemple, mais Asara Ma'amarot Nira Olam. Donc, je sais que chez les dans le monde des Chabad, quand ils font une mitzvah ou un mariage, le Khatan, le prince de la fête, celui qui est concerné, il fait un Mahamar. Ça rejoint tout à fait cet émir. On dirait que c'est la version la plus noble de la verbalisation. Basara Mahamarot Nivra Olam. Même en hébreu moderne, c'est vrai qu'en hébreu moderne, on dit pas Ata Omer lo, Emor lo, Tagid lo. Mais c'est vrai que par exemple, quand une personne elle a dit quelque chose, dans l'hébreu moderne, qui est complètement vulgaire, on est très loin des nuances à lesquelles on est en train de parler. Mais ça revient très, très facilement dans le slang, ce qu'on appelle. C'est le langage familier. Dit Ivrit, quelqu'un il a dit quelque chose, D'accord ? Et on n'a pas compris, on veut comprendre ce qu'il veut dire. C'est-à-dire, on veut faire relever la crème de ses propos. Ça, on le dit. Là, on l'utilise. Et on ne l'utilise pas dans le truc, dans les échanges. Dis-lui, ou il m'a raconté. On ne dit pas Amar. Par contre, dès qu'on veut comprendre la substance des choses, Mawamar. Et c'est ça ici, la notion de émir. Ah, j'ai entendu une question qui se pose. Une question. Je ne sais même pas comment on va répondre à cette question. Mais, donc, Veshamar Tave Asita Otam, qu'est-ce qu'on a dit ? Veshamar Tave Asita Otam, c'est un souhait, c'est un fait. La Torah te dit, si tu amènes ça dans les règles, alors je t'assure que l'année prochaine, tu récidiveras. Il y a un enfant qui a posé la question à Rav. Il lui a dit, le Rav, il enseigne la Chine dans sa classe. Un enfant qui a une question qui est très pertinente. Il lui a dit, mais l'année où Akadosh Baruch il a détruit le Beth Amidash. Veshamar Tave Asita. Comment ça se passe ? Là-bas, il a pas pu récidiver la personne qui a amené les bikurim. Comment on le pense, hein ? Il y a quelque chose, il y a un midrash Tanchuma extraordinaire. Midrash Tanchuma, voilà. Il est là. Magnifique. En fait, on va le réaliser au fur et à mesure. En fait, c'est la source inspiratrice de Rashi. Pour comprendre, pour expliquer ce qu'il a dit ici. Comme quoi, parce que cette paracha, si on prend, voilà, je ne vous dis pas qu'on est dans Kitavo, je vous prends juste les quatre psukim du Shlishi. D'accord ? Et je les donne à des gamins, allez, apprenez ça, traduisez-moi ça, expliquez-moi ça. Jamais ils vont dire qu'on parle des bikurim. Rien me dit que ça parle des bikurim, il n'y a aucun. Et pourtant, Rachid, lui, l'a compris sur ça. Et c'est dommage, on dirait qu'on arrive ici à la. À l'ultime but de la relation avec Hachem, et moi je l'ai choisi, et lui il m'a choisi, et c'est ce qui fait de nous des gens si particuliers, et au-dessus de la mêlée, etc. Donc c'est quand même fondamental, c'est quand même le but à atteindre, c'est l'objectif. Et tout ça, Rachid le dit au Bikurim. Donc ça agrandit la question qu'on a posée au début. Alors, pourquoi on fait tout un plat des Bikurim ? Qu'est-ce qu'il y a dans le Bikurim ? Midrash Tanchuma, il dit comme ça. C'est bizarre. C'est la première explication qu'il a sur Kitavo. Il commence pas sur Vaya Kitavo, il commence sur Ayomazé. Tanchuma, il commence sur Ayomazé, sur le Shlishi. C'est rare d'ailleurs. Et il dit Ayomazé Hashem Elokecha Metzavecha Lasso. Ze She'amar Akatuv. Il dit cela rejoint le verset qu'on connaît tous, qu'on lit tous les vendredis soirs, voire plus. Bo'u Nishtachave Venichra'a Nivrecha Lifne Hashem Osen. David Amelech, là-bas, dans le Tehillim, il dit, venons, prosternons-nous. Après, je ne sais pas comment, on va dire, les déclinaisons de se prosterner, qui existent en hébreu, en français, je ne sais pas, courbons-nous, ouais, se courber, hein, inclinons-nous, voilà. Alors, nishtachave venichra'a, nishtachave, si nishtachavaya, nichra'a, kri'a aussi, c'est se prosterner. Nivrecha, Mishon Berech, c'est les genoux, c'est le mouvement des genoux, de se plier. Lifne, agenouiller, lifne Hashem Elokeinu, Hashem Asenu. Alors demande le Midrash, Valo Kriya, Bichlal Ishtachavaya, Vishtachavaya, Bichlal Kriya, Uma Talmud Lomar, Nishtachave, Nichrea, Venivrecha. Pourquoi est-ce que le Passouk utilise les trois termes de s'agenouiller, se courber, se prosterner ? De quoi on parle ? Dit le Midrash, et là, Tsafa Moshe Beruach HaKodesh. Moshe a vu au loin, par Ruach HaKodesh, Vera'a, Shebeit HaMikdash Atid Licharev. Il a vu que le Beit HaMikdash était amené à se détruire. Alors, bien entendu que c'est une catastrophe en soi, mais c'est quoi la catastrophe ? C'est quoi le point, si on pouvait, dans un malheur absolu, définir quel est le point culminant du malheur ? Il dit « Ve'abikurim atidin lipasek ». Le Beit HaMikdash, c'est le grand malheur. Mais la catastrophe de ce malheur, c'est que le Bikurim vont s'arrêter. Alors qu'est-ce qu'il a fait, mon cher Benoît ? Amad Veitkin le Israël. Et il a instauré à Israël Shiyu mitpalelin shlosha pe'amim bechol yom. Alors il a instauré. C'est toute la raison. Bien entendu, après on connaît Avraham, Yitzhak, Yaakov, le Remez, là-bas, Yashkem et tout. Mais le Midrash, il va dire non. C'est la raison de ces trois tfilotes, c'est parce qu'il n'y a plus de Bikurim. Extraordinaire. T'imagines la place que ça prend la tfila dans la vie d'un juif. Voilà, c'est pour combler le vide des Bikurim. Les filles, Shechaviv tfila lifna kadosh bochum, kol ma sim tovim ou mikol a korbanot. Parce qu'aux yeux d'Akadosh Bochum est cher la tfila qu'on lui fait. De toutes les bonnes actions et de tous les sacrifices. Extraordinaire. Et il ramène le pasouk parce que c'est marqué Tikon tefilati ketor et lefanecha mas'ad kapay minchat arev. Ou Moshe Rabbeinu afalpi sha'asa kol ma'asim tovim kevan shenigzar alav shelo likanes la'aretz itpalel ve'amar ye'berana ve'er'e. Ve'amar lo akadosh b'chol tosef daber elayot bado. Comme pour asseoir sa démonstration, qu'il n'y a rien de plus important. Bonjour, tu as fait ta mission avec brio. Bon, tu vas pas rentrer en Eretz. Il a fait cette fille-là. Et au point que Akadosh Baruch Hu va lui dire arrête de prier. Tellement Akadosh Baruch Hu devant les filles-là, je peux pas résister. Donc la seule façon que je puisse réaliser ce que j'ai décidé, c'est arrête de prier. Alors le Midrash revient. Donc maintenant on revient à ce qu'il voulait dire depuis le début. C'est ce qui a marqué ici. Hayom azeh Hashem Elokecha metzavecha la'asot. C'est ça. Hayom azeh Hashem Elokecha metzavecha la'asot. Il fait référence à la tfila. Et il dit Amar Rabbi Abbaou, Bour et Kama mitchatein, combien est merveilleux la force de Kama yeshlem pitron pe le osse mitzvot. Adam yeshlo esek malchut. Un homme a besoin. Des pouvoirs gouvernementaux royaux, d'accord, pour une affaire à lui. Il dit, alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire passer une mallette, il va faire passer de l'argent pour acheter un droit de qu'on lui accorde telle chose ou telle chose qu'il a besoin pour réaliser son projet. Il a dit déjà, jusqu'à que la mallette elle arrive entière devant le roi, c'est pas sûr. D'accord ? Et ce ministre, il va prendre, là, et ce conseiller régional, il va prendre, et celui-là, il va prendre. Bichla, c'est même pas sûr que ça arrive devant le roi. Mais même si ça, Kevin Shiget, ça la mêlèche, ça fait qu'on sèche le bateau. Le roi, il peut encaisser ton argent, et il dit non, je refuse, non, je veux pas. Tu sais pas s'il va le faire. Ça fait clos, c'est. Écoutez bien, Aval Akadosh Bouchou et Noken. Akadosh Bouchou, il n'est pas comme ça. Et là, il y aurait d'Adam les torsadeu. Un homme. Descendait sur son champ, Ra'aïch kol shebiker, Te'ena shebikra, Rimon shebiker, quand il voyait un fruit qui a. Qui a bourgeonné, Manicho besal, Ve'olech l'Irushalayim. Il le posait dans un panier, il allait à Jérusalem avec, Uba ve'omet be'emtsa Hazara, et il se tient au centre de la Hazara dans le Bet Amigdash, Umvakesh rachamim alatsmo al Israël, al Eretz Israël, en faisant des tfilotes sur lui-même, le peuple d'Israël en général et sur Eretz Israël. Chez Nemarashki, Famimon Kotchecha, comme on a vu le passage ici. Velo Od, et non seulement ça, et la Shaya Omer, Enizaz Mikan Achetase Tzorki Ayomaze. C'est ça, Ayomaze. Il dit je ne bouge pas de là tant que tu ne remplis pas, tant que tu ne feras pas ce que j'ai besoin, Hachem. Chez Katou Vacharav, parce que c'est marqué Ayomaze Hachem, comme ça fait Chala Asot. Et c'est quoi Ayomaze Veshamarta Vasita? C'est que. Comme Rashi l'a dit, là c'est la source de Rashi, Kol Mevarachto. Parce que lui dit je bouge pas de là, donc la voix lui répond Tishne Leshana Abba'a. Le Tchouf qui ramène Tiske Leshana Abba'a, mais Rashi, tellement il était dans le mois d'Eloul, qu'il a dit Tishne Leshana Abba'a, pour faire référence à Rosh Hashanah. Voilà, on va ramener juste un élément encore, une pièce pour fermer tout après. Un jour, il y a quelqu'un qui a dit, je trouvais ça assez brillant, qu'est-ce qui est le plus éloigné d'une vérité? Il dit, c'est pas le mensonge, c'est la moitié de la vérité. C'est pas le contraire de la vérité, c'est la moitié de la vérité, c'est la chose qui est le plus loin de la vérité. Pourquoi je vous dis ça? Dès que, si jamais maintenant quelqu'un il vous lance sur la table le sujet ou le personnage, cahier. Quelques notations ça dans la tête. Ah, cahier, le tueur. Ah ouais. Non, de toute façon, lui, il a rien laissé. Il a été tué par son arrière-petit-fils, tout va le caïn. À 14 jours, lui avait dit, de toute façon, qu'il allait payer le plus fort, etc. Donc on a tous tendance à, c'est pas à juste titre, au contraire, à mauvais titre, de penser caïn le tueur, caïn le tueur. Pourquoi on a tort? Je crois que c'est un douteux qui m'avait dit ça un jour, que la femme de Noir, qui lui indéniablement vient du troisième fils d'Adam et Chava, c'est Chet. Donc Noir vient de Chet. Donc c'est sur ça, la majorité des gens, depuis le Gan, ils ont appris, ah, on vient tous de Chet, on est tous de Chet. En fait, c'est pas vrai, c'est à moitié vrai. Parce que la femme de Noir, elle vient de Caïn, c'était Naama. Et donc ça veut dire que la moitié de la population mondiale, elle est à moitié Caïn. Quand on parle de Caïn, on ne parle pas de l'histoire d'un tueur dont le sort a été révolu et réglé par Dieu. Mais on parle de quelqu'un qui est à 50% l'ancêtre de l'humanité. Qu'est-ce qui a marqué à propos de Caïn ? C'est marqué dans le fromage. Vayimiketz Yamin, au bout d'un certain temps. Vayavek Kaïn mi peri ha adama, min chalachem. En préparant le chiffre, j'ai réalisé que c'est un passage qu'on nommait complètement. Parce qu'on ne comprend pas sinon pourquoi. Bon. Vayavek Kaïn mi peri ha adama. Mi peri ha adama. Une offrande pour Hachem. Mi peri ha adama. Comme après, je vous l'évite, c'est le dit dans une de ses sikhot. C'est quand même le premier. C'est le premier qui a initié l'idée de pouvoir remercier, rendre, reconnaître. Vehevel Hevigamou. Hevel n'a fait que suivre l'exemple. Mais lui, il a ramené Mi Bechorot Sono. Bikurim. Il a ramené le Bechorot de Bikurim. Vaisha Hashem, et l'Hevel Velminchato. Hashem a pris le corban de Hevel. Ve'el Kaïn ve'el Minchato Losha. Et la Torah, bon, il est nécessaire de préciser. Par contre, non, El Kaïn ve'el Minchato Losha. Rien du tout. Akadosh Baruch Hu ne s'est pas tourné. Quelle a été la réaction de Kaïn ? Regardez, si c'est un tueur, si c'est un vulgaire personnage. D'abord, c'est dur de dire ça parce qu'il a eu l'idée. Et puisqu'il a eu l'idée, ça lui tenait à cœur. Dit la Torah. Vayichar le Kaïn meod, vayipelu panav. Deux réactions. Énervé, triste. Énervé et triste. Vayichar le Kaïn, vayipelu panav. Vayomer Hashem el Kaïn. Lama charalach velama naflufanecha. Akadosh Baruch Hu, viens voir Kaïn. Non, tu n'as pas à être triste. Et tu n'as pas à être énervé, tu n'as pas à être triste. Et il lui dit Allo imtetiv, seet. Lève le visage et va de l'avant. Si tu t'améliores, alors tu vas t'élever. Veim lotetiv, la pétachata trouvet. Si tu t'améliores pas, donc c'est un pachou qui s'adresse à 50% de l'humanité. On comprend. Et là, après, on nous parle de l'idée, de l'histoire. C'est seulement dans un deuxième temps que la Torah nous parle effectivement que Caïn a tué Havel. Si on essaie d'analyser le problème de Kafui Tova, l'expression Kafui Tova, Kafui Tova, on sait ce que c'est, ingrat. Mais ça veut dire quoi dans les termes Kafui Tova? C'est quoi Kafui? kafa alehem akadosh baruch hu arkei gilit. C'est recouvrir. Donc c'est quoi kafui tova? Je recouvre le bien. Je recouvre le bien. Il y a du bien. Dans toutes les situations, il y a du bien. Et moi, je couvre le bien pour le rendre inexistant, du moins invisible, pour ne faire ressortir que le mal. C'est ça kafui tova. Tu vois ce qu'on a dit au début? Au début, on a dit, on a arraché là-bas. Ve'amar ta'elav. She'encha kafui tova. C'est ça. Le but des Bikurim, c'est She'encha kafui tova. Profondément, ça veut dire quoi? Alors, je le Rav Elon, en Eretz Israël, il explique comme ça. C'est quoi Bereshit? On dit, ça s'appelle Reshit. C'est quoi la notion de Reshit? D'accord? Au commencement, bon, on a compris que ça, c'est juste c'est une traduction commerciale. Mais bon, Reshit, ça ne veut pas dire commencement. C'est Atrala. Il y a d'autres termes. Bereshit, c'est un mot en vérité, au fond, qui est intraductible. Que nous, êtres humains, notre corps, du moins notre partie visible, ne peut pas définir, ne peut pas traduire. Je vais même plus loin, même a du mal à croire, a du mal à réaliser, ne vit pas avec ça, avec la notion de Bereshit. C'est quoi Bereshit? C'est créer à partir de rien. On sait que chaque individu a trois associés. Le père qui donne le blanc, la mère le rouge, et Akadosh Baruch Hu, la Neshama. C'est-à-dire que chaque individu est la résultante de deux éléments existants. La Neshama, non. La Neshama d'ailleurs, une des déclinaisons profondes de la Neshama, qu'on a tendance à appeler âme, mais parce qu'on ne sait pas quoi dire d'autre. La Neshama, c'est comme elle s'appelle Yechida, enfin c'est Yechida. C'est un élément unique. C'est-à-dire quoi Yechida? En fait, c'est l'élément qui est la provenance de celui qui crée à partir de rien. Du rien. D'ailleurs, le mot Neshama, je ne sais pas si vous avez fait attention à l'Aftara qu'on a lu la semaine dernière dans Kitetsé, là-bas c'est marqué Ve'arim Neshamot. Ah, c'est vrai qu'il y a un dagesh. Il y en a qui vont faire des scandales. Neshamot, attention, non, mais le dagesh, sinon ça veut dire Neshama. Neshamot, là-bas, on parle de ville dévastée. En fait, c'est dévasté. Shamem. Les gens, Shamem. Il n'y a rien. En fait, la Neshama, c'est notre partie de rien. On est constitué de deux yesh, de deux ya, de deux matières, et d'une partie rien. D'accord. Maintenant, on dit tous les jours cette phrase sans la comprendre et encore moins sans la réaliser. Amechadesh betuvo bechol yom tamid maase bereshit. C'est quoi cette notion? C'est quelque chose qu'on peut pas comprendre. Moi, je parle pour moi. On peut comprendre. Nous, on peut pas parce que à nos yeux, on est des humains. Donc nous, on ne voit que la partie, on ne considère que la partie yesh. La partie rien, on a du mal à comprendre, on a du mal à cerner, on ne réalise pas. Et donc, il y a une véritable difficulté, je parle pour les croyants, les autres ne m'intéressent pas sur ce sujet, à être ma'amine, à être convaincu, à vivre avec la notion de yesh, mais aïn. De Aïn, de Neshama. C'est un élément qu'on peut pas comprendre. Le rien. Quand quelqu'un part de ce monde, il y a un texte qui dit que les parents ils viennent. Je crois, qu'est-ce que tu as fait? On était associés. Je dis, non, vous inquiétez pas. Moi, j'ai pris ma part, c'est tout. Le rien. Caïn. Mais la chaîne Kaniti, j'ai acquis. C'est quelqu'un qui focalise sur sa dimension de Yesh. Le problème de Kafut, qu'est-ce qui se passe bon, quand Yesh? Il a acquis des choses, il a vu des choses. Il a mis Péri à Adama. Et il se perd dans son Yesh. Au point où il ne fait plus exister, il ne considère plus sa partie Aïn. c'est intéressant parce que Caïn, c'est ça. C'est le couf de l'Iknot, de Kaniti, et en même temps Aïn. C'est un problème de Kafui Tova, c'est ça. Kafui Tova, il a couvert sa partie Aïn pour acquérir ce qu'il y a. Il a gardé pour lui. Ça va très très loin. Les bikurim, c'est ça le bikurim. C'est le fruit qui a donné la possibilité à un individu qu'on appellerait agriculteur, qui n'est pas, c'est pas un rav, c'est pas un tamid chacham, c'est un être humain, un individu normal, de Akadosh Baruch Hu lui a donné un moyen concret de comprendre son ayin. Il y avait rien. Il y a un tronc. Il y a des branches. Il y a un bourgeon. Ah, il y a un fruit. Tac. C'est que je lui mets un fil rouge, quoi. Ah, j'ai réussi à saisir cette dimension qui est insaisissable de la part des êtres humains normalement constitués. Voilà, je l'attrape. Voilà le haïn. Voilà, haïn est là. Et c'est extraordinaire. Comment ? Qu'est-ce qu'elle a dit la Mishnah ? Je vous ai ramené. Rol va aller au manuyot. Rappelle, tous les artisans, quand ils arrivaient, ils se lèvent. Ils se lèvent pas devant Tamid Chacham. Ils n'ont pas le droit. Mais pourquoi ? Parce que les Baalei Umaniyot ont besoin de cette émouna. Ah, mais qui c'est qui arrive ? C'est ceux qui ont réalisé, ceux qui ont saisi, comme ils le pouvaient, le haïn, le rien. C'est tellement fondamental comme notion. Et là, c'est vrai. Mais c'est comme ça que j'ai compris, moi, quand le Midrash, il a dit « Hayom azé, Hashem elokecha mitzavecha » et le Midrash, il identifie ça « Bou nishtachave v'dichay »« Moshe Rabbeinu » Il n'y a plus de bikurim, à la catastrophe, dans ce malheur de la destruction, c'est l'interruption des bikurim. Mais comment on va pallier à ça ? La tefila. La tefila, c'est le seul moment qui nous est donné pour faire exister ce haïn. Même ta tefila, tu ne vas pas l'entendre. T'es dans ton haïn. La véritable tefila, et d'ailleurs, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il dit ? Il gade et tiayom. Quand il arrivait avec ses bikurim, il gade et tiayom. Good, good achid, good asik. Good, ça veut dire c'est lié. Je veux me lier à Hachem. Mais me lier à Hachem, je ne peux pas me lier. C'est pas mon corps qui se lie à Hachem. C'est ma neshama qui se lie à Hachem. Mais ma neshama, c'est ma partie rien. Et donc, Bereshit, bar Elokim et Hachemay et Haaretz. On peut saisir un peu mieux. C'est quoi ce truc qu'ils en ont fait en flanc ? Les bikurim, c'est le but de la création. Oui, parce que ne pas se perdre au jeu du yesh, je ne suis que le produit de deux personnes qui sont eux-mêmes des produits de deux yesh, etc. Et que tout dans la vie est comme ça. Chaque acte est la résultante de la connexion de deux choses. Mon cerveau, mon cœur. Mon cerveau donne à mon bras la volonté d'agir. Il y a au moins deux intervenants avant d'arriver, même une réflexion, même une pensée. Tu as vu quelque chose, tu as vécu quelque chose. Ça, il va y avoir plusieurs mouvements pour aboutir à quelque chose, à une idée, à une pensée. Tout est du yesh. Le haïn, c'est le secret que renferme le bikurim. Et on comprend pourquoi. Si tu arrives au haïn, les shana bah tishne. Donc c'est pas un problème pour toi ça. Et donc c'est clair qu'Akadosh Baruch Hu te donnera l'occasion de redécouvrir et de réapprofondir et de d'intégrer encore mieux cette notion de haïn. Et donc c'est ça. Bikurim, c'est un message avant Elul, avant Rosh Hashanah. Comme j'entendais de Rav Shapira aussi il y a quelque temps. La notion du chauffard pendant le mois de l'été, c'est pouvoir mettre un son sur des mots qu'on n'arrive pas à dire. C'est faire vivre cette partie qu'on n'arrive pas à faire vivre. C'est quelle partie ? C'est la partie rien. La partie rien.